Je vous ai présenté au tableau, il n'est pas bien grand, j'ai pas pu écrire plus gros, le plan un peu détaillé de mon exposé ce matin. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne le voient pas, qui sont à l'autre salle, celles qui ne le voient pas, on parlera d'abord de la révélation de Dieu qui existe, ça la raison peut l'établir, puis qui est Dieu, et Dieu nous ne pouvons le connaître que par révélation. La raison ne donne que des négations. Il est plus grand qu'eux. Il est infini. Il est au-delà de nous. Et puis, si Dieu, pour être connu, doit se révéler, quelles sont les révélations? Qui a dit « J'ai reçu une révélation de Dieu » On commencera par Abraham, notre prêtre dans la foi. Abraham, avant quand il est appelé. Mais qui a, en quelque sorte, une révélation privée. Ça n'intéresse que lui. Lui et sa descendance. Moïse va venir après. Être le grand législateur d'une religion qui relie l'homme, le peuple de Dieu, à Dieu. Et puis, derrière Moïse, les prophètes vont venir rappeler en permanence au peuple hébreu sa relation à Dieu et perfectionner cette révélation mosaïque en, je dirais, la spiritualisant de plus en plus. Finalement, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, vient sur la terre nous parler et prouver son message par des signes. Alors, ces deux révélations qui, à mon avis, en font plutôt qu'une, vont nous montrer ce que sont les signes de Dieu. Parce que Dieu, quand il envoie quelqu'un parler, quand il donne un message, donne un signe qui dit « c'est moi qui l'envoie », un signe fort, un signe puissant. Ayant vu donc un rappel qui fera à peu près la moitié du temps sur cet aspect de la question, nous traiterons dans une deuxième partie le Coran et la révélation qu'il est supposé nous apporter. On verra un passage sur Mohammed, qui lui-même ne s'est pas dit prophète. On va voir sa vie, ses mœurs, qui ont tout, qui s'appelle tout sauf recommandable, et les fruits de l'islam. Et ma conclusion, j'ai trois parties rapides. Premièrement, l'islam est un fléau que Dieu laisse frapper les chrétiens. Parce qu'ils sont relâchés dans leur tournuite. Deuxièmement, en conséquence, la conversion est nécessaire. Si vous ne convertissez pas, vous périrez tous. Et troisième aspect, dont a parlé Monsieur le Père Marziac au cours de son sermon, la prédication nécessaire. Il faudra un jour ou l'autre se décider à prêcher les musulmans. On va voir par quel bout on peut y arriver. Rapidement, ce n'est pas le but de l'exposer. Alors, Dieu existe, la raison naturelle peut le reconnaître. La création visible révèle le créateur invisible et ses perfections. Le moindre brin d'herbe, dit saint Thomas, du seul fait qu'il existe, prouve qu'il y a un existant suprême, source de toutes les autres existences. Je ne parlerai pas de l'évolutionnisme qui nous est prétendu comme une proposition pour remplacer Dieu. C'est ce qu'annonce officiellement dans un article Jean Rostand. Il écrit... L'évolutionnisme n'a à son profit aucune preuve scientifique, n'a jamais pu avoir une seule preuve à son actif. Cependant, si je refuse l'évolutionnisme, je suis obligé d'accepter la création et je ne veux pas. C'est clair. C'est un acte de foi, je dirais, sauf qu'il est absurde. Alors, je passe là-dessus. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, parle de la perversité qui consiste à ne pas reconnaître que Dieu existe, créateur et infiniment parfait. Alors, je vais me permettre d'en faire une longue citation, parce qu'il définit le problème et il montre les conséquences que nous voyons aujourd'hui, sur les mœurs et la dégradation de l'homme. Du haut de ciel, le courroux de Dieu se manifeste contre toute l'impiété et la perversité des hommes qui retiennent la vérité captive du mal. Car ce qui peut être connu de Dieu, ils le lisent en eux-mêmes. Dieu le leur a fait connaître avec évidence. Depuis la création du monde, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité apparaissent visibles à l'esprit par ses œuvres. Ils sont donc, dit saint Paul, inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont point donné la gloire qui lui convient. Se vantant d'être sage, ils se sont alors égarés dans leur vain raisonnement. et leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres. Tout en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la majesté du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, on dit ça maintenant les idoles, mais au sens showbiz, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et voire des idéologies, qui est un système fumeux de pensée qu'ils adorent. Adorent, je veux dire, qu'ils vont jusqu'à sacrifier des hommes pour que l'idéologie, soi-disant, passe. Aussi, ça qui en arrive dans le drame d'aujourd'hui, Dieu les a-t-il livrés à l'impureté au gré des convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils ont eux-mêmes flétri leur propre corps. Ils avaient substitué le mensonge à la vérité divine, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qu'il soit béni pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions ignominieuses. Leurs femmes ont changé le commerce naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, délaissant le commerce naturel avec la femme, se sont mis à brûler de désir les uns pour les autres, entretenant d'homme à homme des relations infâmes et recevant dans une mutuelle dégradation en leur corps un salaire digne de leur égarement. C'est écrit, oui, c'est écrit il y a presque 2000 ans maintenant. Mais ce Créateur que la raison peut connaître, à quel la raison peut parvenir, c'est aussi le tout autre, l'inconnaissable, celui qu'on ne peut pas connaître. On ne peut en parler, je répète, qu'en termes d'infini, de infini, qu'on ne peut pas finir, qu'on ne peut pas délimiter. Alors, nous savons par la raison que Dieu existe, mais on ne sait pas qui il est. Et cette démarche de la raison, Confucius y est arrivé. C'est le témoignage d'un diplomate chinois qui a fini par se convaincre, qui a se convertir au catholicisme, qui est bénédictin, et il dit Confucius est arrivé à la notion qu'il y a un Dieu créateur, qui est tout autre et que nous ne pouvons pas connaître, que nous ne pouvons pas entrer en relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il dit, ce que nous devons faire, c'est respecter les lois qu'il a mises dans la création, ce que nous, chrétiens, appelons la loi naturelle. C'est Confucius, dans son texte original. Mais, avec cette seule raison naturelle, l'homme ne peut aujourd'hui se considérer que comme dans un radeau perdu dans l'immensité, errant vers une destination inconnue et condamné à mort. Ce Dieu que nous ne pouvons pas atteindre avec nos seules forces naturelles ne peut être connu de l'homme que s'il daigne, lui, Dieu, se révéler à nous. La révélation est nécessaire pour connaître Dieu. Cette démarche de Dieu est un acte souverainement libre. Nous savons depuis la révélation qu'il est dicté par son amour infini. Des hommes ont prétendu, ont dit, ont annoncé recevoir cette communication de Dieu à destination de tous les hommes. Et ce qui est incroyable, invraisemblable, merveilleux, s'est produit. Dieu, effectivement, s'est révélé aux hommes par des envoyés qui se sont déclarés tels. Comment peuvent-ils authentifier leur message? Qui sont-ils? Quel message ont reçu? Alors nous allons voir successivement Abraham, Moïse, les prophètes, notre Seigneur, et cet homme qu'on appelle Mohammed. Le premier homme qui a reçu un message qui nous a été répercuté de Dieu, c'est Abraham. Abraham au départ, que Dieu fera appeler Abraham ensuite. Dans le livre de la Genèse, nous voyons comment Dieu fait irruption dans la vie de celui qui n'est encore qu'Abraham. Il lui parle en souverain, en maître qui commande. Mais il ne se fait pas connaître autrement que par la perception aiguë qu'a Abraham de son unicité, et donc de la caducité, la vanité des idoles adorées dans l'environnement politique et social de son époque. L'ordre donné par Dieu n'est pas facile à suivre. Va-t'en de ton pays, quitte ta famille, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Il ne sait pas encore lequel. Va. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom, tu seras ma bénédiction. Tu seras une bénédiction. Il s'agit pour Abraham, qui a des moyens, c'est vrai, une vie relativement aisée, de devenir un exilé volontaire, de devenir un étranger là où il doit se rendre. Or, chez les anciens, les latins par exemple, le mot étranger et le mot ennemi a le même vocable. Abraham doit donc partir et risquer sa vie en tant qu'étranger ennemi sur la route du pays inconnu où il doit se rendre. Il doit devenir un grand peuple et Sarai, sa femme, est stérile. Elle ne peut pas lui donner d'enfant, à vue humaine au moins. Et Abraham ne va pas directement dans le pays qui lui est destiné. Il a quelques errances, il marche sur la route, et toujours rien ne se passe. Alors il demande à Dieu, « Seigneur, que me donnerez-vous ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliezer de Damas. » Dieu conduit alors, dit la Genèse, Abraham hors de la tente, et lui fit contempler le ciel. « Compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta postérité. » Malgré sa situation humainement sans issue, il est âgé, sa femme est âgée, ne peut pas lui donner d'enfant, même jeune ne pouvait pas lui en donner. Abraham eut foi en Yahvé, et Dieu lui importa à justice, dit la Bible. C'était une promesse, mais pas vraiment une révélation. C'est pour ça que j'ai parlé d'une révélation personnelle, privée, si j'ose m'exprimer ainsi. Sa descendance n'existe pas encore. Mais Dieu, aux chaînes de Mambré, va annoncer la naissance d'Isaac. Et Sarah va trouver cette annonce tellement stupide, tellement invraisemblable, qu'elle va en rire. Ça va lui être reproché. Mais un an plus tard, elle donne naissance à Isaac. Ainsi, tout au long de l'histoire qui viendra ensuite, quand Dieu envoie un message ou un messager, il donne des signes qui authentifient le message ou le messager. On le verra tout le long de l'histoire. De la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va sortir les 12 tribus d'Israël qui sont réfugiées en Égypte et finalement ils sont persécutés parce qu'elles deviennent trop nombreuses. L'oppression se durcissant, Dieu envoie un nouveau sauveur avec Moïse parce que Dieu est fidèle. Dieu, c'est Moïse qui va enseigner à ce peuple tiré de l'oppression le culte qu'il devra rendre à Dieu. Il le fera au nom même de Dieu et donnera des signes répétés qu'il parle au nom de Dieu. Considérons donc Moïse. Je ne reviendrai pas sur les circonstances que Dieu ménagea pour faire donner à Moïse une éducation princière. Sauvé des eaux, il est recueilli par la fille de Pharaon et il va être élevé comme un fils, dans la famille, dans la maison de Pharaon. Mais en même temps, la mère s'est révélée et c'est elle qui sert de nourrice à Moïse, c'est donc elle va lui transmettre aussi la religion, la foi, la croyance. Moïse s'échappe d'Égypte après avoir tué un Égyptien, il est donc exilé, proscrit, et quand Dieu l'appelle, il est isolé. Il garde des moutons, il garde ses troupeaux dans les montagnes du Sinaï. Il n'est pas porté à croire au merveilleux. Et pendant qu'il garde ses moutons, il voit un buisson qui brûle. Bon, il fait chaud, très chaud, un buisson qui brûle, bon, ça peut arriver. Mais ce buisson ne se consume pas. Moïse ne croit pas à un phénomène merveilleux. Il dit, tiens, c'est curieux, je ne connaissais pas encore ce phénomène, je vais aller voir ça de plus près. Je vais faire un détour pour examiner ce spectacle et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Il pense assister à un phénomène naturel encore inconnu de lui. Le Seigneur Dieu, dit la Bible, voyant que Moïse faisait un détour pour regarder, l'appelle du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Moïse, je pense, a dû être étonné d'entendre une voix et de ne voir personne. Mais il répond, selon la formule sémite, « Me voici ». Comme nous, Européens, nous répondrions « oui » quand on vous appelle, ou « qu'est-ce qu'il y a ?» Alors Dieu lui parle et finit par se présenter « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et c'est quand il donne son nom que Moïse alors se couvre le visage par crainte révérentielle du Dieu vivant. Dieu s'étant fait reconnaître, il dit à Moïse « Je vais t'envoyer sauver mon peuple de Pharaon. » Imaginons, ça, un homme qui s'est échappé des communistes et à qui Dieu dit tu vas aller voir Staline, tu vas dire qu'il faut libérer les Polonais. Ça fait à peu près le même effet. Et il est évident que Moïse va marquer toutes les réticences possibles devant l'ordre de Dieu pour dire non, ça ne va pas, quoi, je ne peux pas faire ça. Il est seul et proscrit, il connaît de l'intérieur, il a été dans la maison de Pharaon, la puissance, je dirais, idolâtrique de Pharaon qui, sur un signe, fait mourir qui il veut. Il s'inquiète donc de sa crédibilité tant vis-à-vis de Pharaon que d'ailleurs vis-à-vis du peuple. Et il va finir par dire, bon Dieu, mais je vais dire au peuple que vous m'envoyez, mais qui êtes-vous? Et Dieu lui fait la révélation, je suis. Saint Thomas, il dit, je veux dire par là, j'existe. Moi, mon propre, ma caractéristique fondamentale, c'est l'existence. Nous sommes des existences passagères. Lui, il est celui qui dit, j'existe, je suis. Phrase que va reprendre Jésus, d'ailleurs, qui va lui mériter une tentative de lapidation. Moïse va donc finir par vaincre. Alors, il lui donne des signes à faire. Il dit, voilà les signes que tu feras pour convaincre le peuple, et voilà les signes que tu feras devant Pharaon. Mais je te préviens, Pharaon ne va pas y croire. Il va relâcher mon peuple que contraint et forcé. Donc, non seulement il lui donne des signes, mais il lui annonce le comportement de la personne à qui il va s'adresser. Et cela va se vérifier. Le peuple va suivre Moïse sur les signes que Moïse lui donne. Pharaon va s'endurcir le cœur, pour reprendre le terme de la Bible, et va refuser que contraint et forcé, quand son fils premier-né va mourir. Et il faut remarquer, quand vous lisez la Bible, que les premiers signes de Moïse sont contrés par les magiciens de Pharaon. Il jette son bâton qui devient serpent, les magiciens jettent leur bâton qui devient serpent, mais le serpent de Moïse, il mange ceux des autres. etc. Après, quand les signes se durcissent, quand Dieu se montre en maître de la vie, il va multiplier les moustiques, les grenouilles, etc., le pays est occupé par les Hébreux, lui est protégé des fléaux. Dieu est maître de la vie. Bon. Finalement, au long de cette mission, il va vaincre l'obstination de Pharaon, il va conduire le peuple. Et tout au long de sa mission, Dieu lui donne de faire des signes encore. L'ouverture de la mer Rouge, l'engloutissement de l'armée de Pharaon, la manne, l'écaille, les rochers qui donnent de l'eau, etc. Et sans arrêt, il donne des signes à ce peuple qui, dès qu'il y a une difficulté, finit par dire « Non, c'est pas vrai, on s'est trompé, on ne veut pas l'arriver. » Et chaque fois, il redonne un signe. Et Moïse va donner les règles du culte à rendre à Dieu, en attendant, toujours, en vertu de la promesse de Dieu, ce sauveur définitif annoncé depuis la chute originelle. Et les signes que Dieu donne sont quasiment tout le temps des signes de vie. Les rares fois où Dieu condamne, je dirais, à mort, c'est quand il y a un problème grave et qu'il faut arrêter. Maître de la vie, Dieu donne un fils à Sarah dans sa vieillesse. Il multiplie puis fait disparaître les grenouilles, les moustiques, les scarabées, les sauterelles. Après Moïse, il va certes provoquer la mort de ceux qui se révoltent contre Moïse pour prouver qu'ils sont dans le tort en les faisant engloutir par le sol. Mais c'est parce qu'ils ont voulu, s'opposer à une vision qui était quasi permanente. Il faut savoir que si les Juifs parlent encore de Moïse et de son aventure, c'est qu'ils sont transmis une génération des phénomènes quand même assez fabuleux. La nuée qui les éclairait le jour, qui les protégeait la nuit, qui était à l'avant-garde pour les guider, et quand l'armée de Pharaon est venue, s'est mise à l'arrière-garde et empêché Pharaon d'avancer. Qui a été présente dans la tente que Moïse avait, et qui était là. On voyait la nuée de Dieu, et il demandait des conseils, il revenait avec ça. Bon. Alors Dieu, donc, dans ce cas-là, il punit, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas pousser. Après Moïse, les prophètes viennent rappeler à son devoir le peuple qui s'égare sans cesse. Eux aussi donnent des signes qu'ils sont envoyés de Dieu. Alors, il faut relire toute la Bible, je n'ai pas le temps d'en faire allusion ici, ce n'est pas l'objet direct de mon propos. Mais je rappelle simplement la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie. Le prophète avait permis à la veuve et à son fils de traverser la famine qui affligeait le pays. Il a quand même demandé un acte courageux de faire pour lui le pain qui lui restait de farine et d'huile, en disant « Ta farine et ton huile ne s'arrêteront pas » dans ce récipient. La femme fait, et effectivement, la farine et l'huile se renouvellent. Là-dessus, le fils est gravement malade, et il va mourir, et la Bible dit, il ne resta plus de souffle vital en lui. Alors, naturellement, la maman va, excusez-moi l'expression, engueuler Élie. Enfin, qu'est-ce que c'est ce travail? Tu me fais passer la famine pour me faire mourir mon fils après, c'est pas normal. Enfin, bref, elle lui fait une scène. Élie invoque à Dieu. Yahvé, mon Dieu, auriez-vous encore fait tomber le malheur sur cette veuve chez laquelle je demeure, jusqu'à faire mourir son fils? Et il s'étendit trois fois sur l'enfant en invoquant Yahvé et en disant, Yahvé, mon Dieu, je vous en prie, que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. Yahvé écouta la voix d'Élie, et l'enfant fut rendu à la vie. Le prophète le rendit à sa mère. Et tous les prophètes qui viennent après Moïse se rangent explicitement, je dirais, dans la mouvance de cette religion de Moïse. Et après avoir, à plusieurs reprises, en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après nous avoir purifiés de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. C'est le message chrétien. Qui était notre Seigneur? La venue du Christ vérifie des promesses millénaires faites au peuple hébreu. Millénaire parce que Abraham, c'est 1700 ans avant Jésus-Christ. Et millénaire parce que tout le long, les promesses se sont répétées, précisées, complétées, les prédictions se sont affirmées. Et si le Christ n'était pas venu, cette révélation qu'on appelle l'Ancien Testament serait la plus gigantesque escroquerie dans le temps possible. Une promesse faite pendant 1000 ans qui ne se vérifie pas. C'est un des problèmes qu'ont les Juifs aujourd'hui, d'ailleurs. Le Christ va vérifier les prophéties, même en ce qui concerne des choses dont, à vue humaine, il n'est pas le maître. Il naît à Bethléem alors que sa famille vit à Nazareth. Et il faut que l'empereur de Rome fasse une décision qui bouleverse l'Empire pour obliger les parents à aller à Bethléem juste au moment où il doit naître. Il va mourir sur la croix. Suspendu au bois, ses vêtements sont partagés, sa tunique tirée au sort, conformément aux Écritures. Il reste encore une chose à faire. On ne l'a pas abreuvé de fiel et de vinaigre. Il dit « j'ai soif », on l'abreuve de fiel et de vinaigre. Alors il peut dire « tout est consommé ». Avant cela, il avait donné des signes messianiques. Aux envoyés de Jean, il répond « allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. » Il y a un sens, certes, matériel à ces choses-là. Les lépreux sont vraiment guéris. Mais il faut voir aussi qu'il y avait la lèpre du péché dont les gens se guérissent. Il y a les boiteux de l'action morale qui vont commencer à marcher droit. Il y a les aveugles de la vérité qui vont finir par la voir, etc., etc. Notre Seigneur se révèle aussi maître des éléments. Dans la tempête apaisée, il se leva et commanda à la mer et au vent, et aussitôt il se fit un grand calme. On n'en est pas aux supplications répétées d'Élie, le grand prophète. Il multiplie les pains sans aucun effort apparent. Distribué, dit-il. Il est maître de la vie et de la mort. Au fils de la veuve de Naïm, jeune homme, je te le commande, lève-toi. Et aussitôt, le mort se dressa sur son séant. La résurrection de la fille de Jaïr. Cette enfant n'est pas morte, elle dort. Et les gens se moquaient de lui. Talita, cum. Ça veut dire, jeune fille, viens. Hop, elle se lève. Il n'y a pas de négociation. Il commande et ça obéit. La résurrection de Lazare dépasse encore plus les autres résurrections parce que, je dirais, il est impossible de ne pas appeler ça un miracle. Parce que Lazare est enseveli, comme d'ailleurs le Christ, à la méthode des Libanais. Ma mère a vu des ensevelissements comme ça, ma mère libanaise. Il y a une grotte. Et dans la grotte, on met le corps entouré de son linceul et on roule une pierre devant. Inutile de vous dire que cette pierre n'a rien d'étanche et que très vite, quand on passe à côté, on sait qu'il y a un mort récent. Ça sent mauvais. Et quand Jésus dit « Je vais aller au tombeau, rouler la pierre », elle lui dit « Mais Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. » Et Jésus fait une prière à haute voix, non pas pour supplier Dieu, mais pour le remercier déjà d'avoir été exaucé. Et il dit, Lazare sort. Et aussitôt, dit le texte latin, Lazare se tint debout devant le tombeau, à la porte du tombeau, les pieds et les mains liés de bandelettes. Imaginez une momie qui était couchée, pourrissante, tac, debout devant la porte du tombeau. Il commande et ça obéit. Déliez-le, laissez-le aller. Et la preuve de ce miracle, c'est les Juifs eux-mêmes qui le donnent. Il dit, cet homme, il ressuscite des morts, tous les gens vont avec lui, il faut donc le tuer pour sauver le peuple. C'est un miracle, et on ne peut pas dire autrement, c'est un miracle indiscutable. Et encore plus grand, il va dire, je vais mourir, on va me tuer, et je vais ressusciter. Les apôtres n'y croient pas. Ils se sont tous défilés, sauf un, l'apôtre vierge. Et quand il ressuscite, il donne la preuve, je dirais, vraiment supérieure. Quoi. Il n'y a même plus, c'est sa force divine qui le prend en compte. Et pourtant, de tous ces miracles, il y en a un plus grand encore aux yeux de Napoléon. Je ne peux pas résister au plaisir de le donner. Napoléon dit, le Christ a demandé ce qu'aucun grand homme n'a jamais osé demander. Il n'osera probablement jamais demander. Il a demandé l'amour des hommes. Et il l'obtient immédiatement. Des gens qui vont aller se dévouer jusqu'à la mort pour lui. Et depuis, il y a toujours des gens qui se dévouent pour lui. Et Napoléon dit, ça, c'est un miracle. Il n'y a pas plus grand que ça. On ne peut pas aimer un mort, on ne peut pas aimer une chimère. De même qu'on ne peut pas haïr un mort. Cette résurrection du Christ est un mystère pour les chrétiens comme pour les autres. Scandale pour les juifs peut-être, folie pour la croix, pour les autres, folie pour les païens. Et encore aujourd'hui, la croix est scandale pour certains et folie pour d'autres. Scandale pour les juifs, scandale pour les musulmans. On va voir que l'islam vient du judaïsme. C'est la même chose. Et folie pour les païens. Les païens qui croient aux valeurs du monde n'imaginent pas le sacrifice de la croix pour avoir le bonheur quelconque. Et les apôtres, il leur a fallu des preuves multiples pour croire à la résurrection. Saint Thomas est un exemple parfait qui dit, moi, non, pas question. Si je ne mets pas mes mains, si je ne touche pas, je ne marche pas. Je ne veux pas y croire. Et après cette résurrection, Jésus va aller encore plus loin. Ces pouvoirs que j'ai, j'en suis propriétaire. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les. Il donne l'ordre. Et voici les signes qui accompagneront la prédication de ceux qui auront cru. Ils guériront les malades. Ils donnent des signes, je vais dire en détail, quoi. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents et s'ils boivent quelques boissons mortelles, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les pouvoirs que Jésus, il les a pas reçus, si, il a reçu du Père, il le dit lui-même, enfin, Jésus le Père, c'est Dieu, il les donne à son tour en tant que propriétaire. Il dit, voilà, c'est moi qui donne la délégation. D'ailleurs, déjà sur terre, il avait donné deux délégations. La cananéenne qui vient lui toucher son vêtement, et à qui il lui dit, on n'est pas venu pour donner du pain aux chiens. Elle dit, oui, mais les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, va, et à toi de dire la décision que je prends pour ta fille. Au centurion, il dit, va, et qu'il soit fait comme tu le veux. Il lui donne le pouvoir, il dit, vas-y, tu décides la décision. Il délègue son pouvoir, parce qu'il en est le propriétaire, il en est le maître. Les disciples prêchèrent donc en tout lieu, et le Seigneur confirmait leurs paroles par les miracles qu'il accompagnait. Mais seulement, pas seulement les 12 apôtres, saint François Xavier, par exemple, a fait des miracles assez fabuleux aussi. Ne serait-ce que celui de découvrir, de parler la langue du pays où il arrivait sans l'avoir jamais apprise. Il arrivait et il se mettait à parler tout de suite aux gens dans leur langage. L'Église, on le sait, est née du coup de lance au cœur de Jésus mort sur la croix. Mort sur la croix, sommeil du nouvel Adam, d'où va sortir la nouvelle Ève, l'Église immaculée. L'Église immaculée sans tâche. À vue humaine, cette Église, alors, n'a aucun espoir, n'a aucun avenir possible, n'a aucun avenir imaginable. Le fondateur est mort, condamné de manière ignominieuse. Des apôtres longuement formés, l'un a trahi, le chef désigné l'a renié. Parmi les 10 qui restent, 9 ont fui. Et ceux qui vont lui rendre les derniers hommages, les derniers devoirs de l'ensevelissement, sont des amis, je dirais presque clandestins, qui étaient en secret, et qui quand même ont le courage ce jour-là d'arriver. Peut-être une histoire pour aujourd'hui, ça. Et pourtant, plus de 19 siècles après, l'Église est toujours vivante, toujours agonisante, certes, mais toujours ressuscitante. Toutes les institutions les plus impressionnantes qui existaient à sa fondation ont disparu. Elles ont passé. Elles restent. La propagation de la religion du Djamour s'est faite par la prédication, par le témoignage de la vie et le témoignage de la mort. Témoignage de la vie dans l'amour fraternel. Voyez comme il s'aime. Et comme ces premiers chrétiens étaient des hommes comme nous, marqués comme nous par le péché originel, ils avaient sûrement leurs faiblesses, mais ils pratiquaient le pardon des offenses. De nos jours, je crois que c'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, le pardon des offenses. C'est une chose difficile. Et pourtant Dieu a dit, nous fait dire, pardonnez-nous comme nous pardonnons. Alors il y a intérêt à pardonner vite, 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 si on va avoir un peu de miséricorde après. Je crois réellement qu'actuellement, dans le démon de la zizanie qui se met chez les chrétiens, il faut que nous, au moins, pratiquions le pardon des offenses. Il serait héroïque de pratiquer un tel pardon et le dévouement réciproque, qui est actuellement quasi incompréhensible aux hommes. Et peut-être même serait-il considéré comme folie, mais ça, on le sait depuis la croix. Cette Église a enseigné « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice », le reste vous sera donné par surcroît. Et c'est pourtant sous son influence que s'est développée la civilisation la plus forte. Et il faut bien entendre civilisation comme le maximum de bien dans tous les domaines, par tous les hommes, tout le temps. Universalité des biens, universalité des destinataires, universalité des domaines, universalité dans le temps. Autant que la misère humaine le permette, évidemment. Il y a eu certes des épreuves, des difficultés, mais l'axe d'effort s'est maintenu. On pourrait comparer les résultats de l'Église, qui a inventé les universités, les hôpitaux, qui a réglé des famines, enfin, etc., aux résultats du communisme ou du nazisme. Ils ont obtenu la ruine, l'asservissement, la mort, alors qu'ils se prétendaient gentiment l'abondance, la liberté et la vie. Par ailleurs, dans la loi de l'Église, la loi de Moïse n'est pas abolie, elle est portée à sa perfection. Et les béatitudes nous montrent encore plus haut que les 10 commandements. Moïse a donc reçu une révélation, il l'a transmise. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé l'amour de Dieu pour les hommes et nous a prouvé sa divinité par les miracles sur les éléments, sur la mort vaincue. Il a revendiqué officiellement cette dignité devant le grand prêtre. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi, quand Jésus dit au grand prêtre, quand il l'interroge, « Es-tu le Christ ?» Il dit « Et vous verrez le Fils de l'homme venir sur la nuée, assis à la droite de Dieu. » Il dit « Déchire la blasphémé. » Eh bien, pourquoi ? Parce que pour les Juifs, la nuée, c'est le symbole de Dieu. Venir dans la nuée, c'est venir avec Dieu. Assis, parce que le maître était assis et le disciple était debout. Alors, assis avec Dieu, c'est donc se mettre égal à Dieu. Et à droite encore. Alors, pour lui, c'est Dieu. Jésus se dit Dieu. Il le savait, c'est pour ça qu'il a posé la question, et c'est pour ça qu'il voulait le tuer. Mais Dieu, donc, au moment... Et remarquons, je dirais, je ne sais pas comment il faut appeler ça, j'ai presque envie de dire l'humilité de Dieu. Pour voir que notre humilité à nous, elle a encore des choses à faire, hein. Dieu n'a pas profité de donner sa divinité quand il fait les plus grands miracles. C'est au moment où il est prêt à être condamné que là, il se révèle comme Dieu, et là, ça, complètement. Il l'a fait avant. Avant qu'Abraham soit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, il va le dire. Mais là, il va le dire clairement, officiellement, devant l'autorité compétente. Il a mis le sceau majeur à ses paroles par sa résurrection entre les morts, et il est arrivé à se faire aimer depuis... par tous les hommes, par toutes les générations d'hommes. Et cet amour, il l'obtient de manière totale à chaque génération depuis son passage sur notre terre. On peut donc considérer que la révélation faite par notre Seigneur Jésus-Christ est une deuxième révélation, après celle que nous a transmise Moïse, mais aussi on peut la considérer comme la suite naturelle, pardon, surnaturelle, la suite de l'achèvement de la révélation mosaïque. Des musulmans qui ont étudié la mystique chrétienne, il y en a un célèbre qui a dit, après avoir bien étudié, il a voulu à tout prix garder son Coran, il a dit, La religion chrétienne serait la meilleure du monde s'il n'y avait pas la Trinité et s'il n'y avait pas le refus de considérer Mohammed comme un prophète. C'est quand même assez fabuleux. C'est quand même assez fabuleux. Et, allez, je vais le dire tout de suite, on dit que l'erreur se révèle erreur là où précisément elle se croit la plus forte. Les communistes ont dit on va faire le bonheur du peuple, ils en ont fait le plus grand esclavage que l'histoire ait connu. L'erreur se révèle erreur précisément là où elle se croyait forte. Eh bien, les musulmans, ils ont un slogan, Allah Akbar, Dieu est plus grand. Mais en faisant un Dieu unique et seulement unique, ils le rabaissent en quelque sorte à taille humaine. Parce que quelque part, notre esprit peut comprendre Dieu. Il y a par un bout, notre esprit est la taille de Dieu. Nous avons rabaissé Dieu à notre taille. Alors que Dieu est un et trine, ça nous dépasse, on ne sait pas faire. Dieu, notre Dieu, il est plus grand que celui qu'il raconte. Dieu est encore plus grand que ce qu'ils disent, disons. Et au 8e siècle, fin du 7e siècle, il y a eu un calife à Bagdad. Il y en a eu quelques-uns qui étaient, bon, ayant vu ce que c'était que l'islam devait un peu perdre de leur fanatisme, disons. Et il avait comme conseiller un cousin musulman et un chrétien. Et vous le savez peut-être pas, dans la charia, la loi musulmane, il est puni de mort le fait de faire enseigner aux musulmans la religion, une autre religion que l'islam. Et le renégat, d'ailleurs, on lui coupe le cou aussi, pour la même occasion. Alors, ce conseiller musulman lance un défi aux chrétiens en disant, on enlève momentanément cette loi, je vais te prouver que ma religion est la meilleure, essaye de prouver le contraire, que ta religion est meilleure. Alors, chacun rédige son papier, et le calife demande à ce soit lu en sa présence les deux papiers. Ce document est un document qui se trouve dans les écoles musulmanes du Caire. Il a été publié en français par le pasteur Tatar, qui est très intéressant comme bouquin, et on voit comment le chrétien répond tranquillement aux musulmans, au point qu'à la fin, je vais citer, le calife se fit lire les deux textes jusqu'au bout, et il se tourne vers son cousin en disant, qui t'a demandé de faire un travail pour lequel tu étais incapable. Et il dit, et le chrétien, on ne peut rien lui dire, parce que s'il ne croyait pas, il ne pourrait pas dire ça. Il ne se mouille pas. Après, il a fait une entourloupette pour essayer de dire, bon, les zoroastriens, c'était les manichéens, c'est la religion de la terre. Les christianismes, c'est la religion du ciel. Le musulman, c'est la religion entre les deux. Bon. Mais donc, on a un texte qui date de l'an 800, c'est à peu près 4 siècles après la mort de Mohammed. Et on voit le chrétien dire devant le calife, officiellement, donc c'est une chose connue de tous, des histoires sur la vie de Mohammed, qui est en fond plutôt un bandit de grand chemin qu'un prophète. Hein. Mais c'est reconnu par les musulmans. Et c'est pour ça que pour eux, le meurtre, tout ça, ça n'a pas le caractère pécamineux que nous avons chez nous. Ben pas trop. Si j'ai fait un meurtre, eh bien, il suffit de me laver la main, la bouche, le nez et les orifices pour que je sois en état de pouvoir faire la prière. Je suis purifié. Et on retrouve ce reproche qu'avait fait Jésus aux pharisiens, surprise, sépulcre blanchi. Sépulcre, c'est rempli de pourriture et blanchi bien peint dehors. Et il n'avait pas apprécié, on comprend. C'était trop vrai. Bon. À la fin du 7e siècle, après Jésus-Christ, à la fin du 600, oui, vers la fin du 7e siècle, voici qu'un livre nouveau est proposé comme révélé, le Coran. Il rassemblerait des textes transmis par un certain Mohammed, comme provenant de Dieu. Et il nous faut regarder ce Coran pour voir comment il est constitué. Je n'ai pas le temps de faire un cours complet, mais au moins rentrer un peu dans le détail. Comment il est constitué et qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment il est constitué? Il est constitué de chapitres qu'on appelle des sourates, qui, sauf la première, qui est une espèce de bénédiction initiale, qui dit « Au nom de Dieu, bismillahirrahmanirrahim, au nom du Dieu miséricordieux, etc., maître du monde, maître de la vie, il commence un premier texte. Eh bien, ces sourates sont classées par ordre de taille et non pas par ordre chronologique ou par ordre de signification. Par ordre de taille. Ça a été classé comme ça par un calife, Othman, qui était un des beaux-pères de Moïse, qui était un des beaux-pères de Mohammed, et qui avait rassemblé, on lui parlait qu'il y avait des différentes versions qui commençaient à circuler, il a dit, allez hop, allez-moi tous vos textes du Coran, tout le monde est bien là, je vous préviens qu'il n'y en a rien seul qui reste, l'homme sera puni de mort. Il en choisit un certain nombre, qui les classe, comme on l'a dit dans le Coran. Tout le reste qui était écrit sur du cuir, il le fait bouillir dans du vinaigre pour bien détruire tout. Et il dit maintenant, s'il y a un autre texte, il condamne à mort. Qui a un autre texte? C'est celui-là. Bon. Et alors, ils vont dire, ce texte, il est révélé par Dieu, et en l'état, il se trouve sur une table devant le trône de la majesté, et récité pour l'éternité par les anges. Quand on sait qu'eux-mêmes disent qu'il y a dans le Coran des versets sataniques, on a entendu parler de Salman Rushdie, on se demande pourquoi les anges vont réciter devant la divinité des versets sataniques. Bon, c'est une autre histoire. Et alors, c'est ce Coran, je crois que notre malheur, c'est que les hommes d'église ne l'ont pas assez tôt étudié. C'était pour eux tellement grossier qu'ils ont pensé que ce n'était pas la peine d'y rentrer dedans. C'est dommage. Mais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un dominicain, le père Terry, qui fuyait la Gestapo en France, qui s'est caché à Alger, parce que même à Alger, la Gestapo pouvait le poursuivre, pas des agents secrets. Et n'ayant rien à faire, il a étudié le Coran, pour voir. Et d'abord, il s'est rendu compte, comme vous dites, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique ni logique, et il a essayé de refaire un ordre chronologique. À partir d'ailleurs de données que donnent les musulmans eux-mêmes. Donc, cette sourate a été révélée à Médine, ça a été révélé à la Mecque, ça à tel moment. Et il retrouve un ordre, sur une traduction, qui est l'ordre même qu'a trouvé un Suédois, je crois, qui travaillait sur le texte arabe. Il retrouve un même ordre. Et il découvre à ce moment-là, quand on retrouve le texte qui se suit, on retrouve à ce moment-là que c'est non pas un évangile, mais l'équivalent d'un acte des apôtres. C'est ce que fait le propagateur de la religion après avoir reçu quelque part un message. Et c'est là que... C'est là que les choses se compliquent, c'est qu'on n'a pas d'informations sur Mohammed. Le Coran dit deux choses sur lui. Enfin, on attribue quelques passages du Coran à Mohammed. Dans la sourate 93, c'est la première, hein, Dieu t'accordera des biens et te satisfera. N'étais-tu pas orphelin, il ne t'a-t-il pas accueilli? Il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Il t'a trouvé pauvre, il t'a enrichi. Alors ils disent ça, c'est Mohammed qui est en cause. Ailleurs, parlant de Dieu, c'est lui qui a suscité au milieu des hommes illettrés un apôtre pris parmi eux, afin qu'il leur redit les miracles du Seigneur, afin de les rendre vertueux, leur enseigner le livre et la sagesse à eux qui étaient de la guerre dans un égarement évident. Alors, il se passe un problème dans la traduction du Coran, c'est que les traductions, je dirais, officielles du Coran de Blacher, de Masson, sont des traductions, quand vous les lisez, elles sont très difficiles à comprendre. Et deuxièmement, dans les traductions, il y a des phrases entières qu'ajoute le traducteur pour faire comprendre le sens qu'il met. Comme s'il fallait, je dirais, trafiquer le texte arabe pour lui faire donner un sens correspondant à l'interprétation des Arabes. Mais j'avance un peu trop vite, là. Et ensuite, en tête de certaines sourates, il y a des lettres. Aleph, Mim, Sin, AMS. Les Arabes disent, c'est un secret de Dieu, on saura ça au ciel, ce que ça veut dire. Il y a dans l'équipe de l'abbé de Nantes un homme qui connaît l'araméen, l'hébreu, l'arabe, le français naturellement, qui a entrepris de traduire le Coran, je dirais, de manière officielle, comme on traduit la Bible dans les écoles exégétiques, quoi. Chaque mot a un sens, un seul, et quel est le sens de ce mot? Et on découvre que dans le Coran, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des apax. Un apax, c'est un nom qui n'existe qu'un mot qui n'existe qu'une seule fois. Alors, si on ne connaît pas le sens, c'est assez difficile de le trouver. Et puis, il y en a d'autres à qui les Arabes ont fait des espèces d'acrobaties pour donner un sens. Et lui, il explique dans une documentation publiée avec toutes les explications qui vont bien comment ces mots bizarres proviennent en fait de l'araméen. Et on peut les comprendre dans la mesure où on est au courant des midrashim du Talmud. Les petites histoires, les petites paraboles du Talmud sont racontées. Et connaissant les mots hébreux et araméens, on arrive à savoir le sens qu'il a. Et il arrive à faire une traduction qui, elle, est, je dirais, plus facilement assimilable par le français moyen. Mais ce qui est plus intéressant encore, je trouve, c'est qu'il a trouvé que les fameuses lettres AMS, etc., ou autres, c'était en fait des bénédictions juives avant le travail. Comme si nous, on écrivait au nom du Père et du Fils par les initiales, quoi. Donc, il va confirmer la thèse du Père Théry, qui dit la chose suivante. Un rabbin a choisi Mohammed, qui était un simple caravanier, pauvre, misérable, vous l'avez vu, qui a épousé une juive, Khadija, une femme d'affaires, qui avait 40 ans quand il l'a épousée, et qui était plus âgée que lui. Or, vous savez peut-être que les hommes du désert épousent des femmes de plus en plus petites. Mohamed, plus tard, va épouser Aïcha, elle aura 8 ans. Bon. Tout ça pour dire que lui, il épouse une femme plus âgée, qui va donner de la richesse, et qui va en plus lui présenter la religion judaïque. J'ai dit la religion judaïque, je n'ai pas dit la religion mosaïque. Pourquoi ? Parce qu'après la chute de Jérusalem, les savants juifs se sont posé la question, comment se fait-il que nos prédictions ne sont pas révélées ? Ils attendaient le Messie. La preuve, c'est que les gens vont poser la question à Jésus. Eux-mêmes, ils disent, vas-tu nous faire attendre longtemps ? Dis-nous si tu es ou non le Messie. Et Jésus leur dit, je vous le dis, mais vous ne croyez pas. Mais croyez au moins les signes que je vous donne. Quand ils ont crucifié le Christ, ils attendaient toujours le Messie. Et puis, à un moment donné, il est arrivé un meneur de bande qui a fait des coups contre les Romains, des embuscades qui ont marché. Parce que les Romains avaient une surveillance du territoire qui était très légère. La Gaule entière était contrôlée par un manipule, 600 hommes, à Lyon. Vous voyez la force d'encadrement, quoi. C'est vrai qu'il y avait une organisation qui leur permettait de faire vivre le pays mieux. L'essentiel des troupes romaines était sur le limès, sur la frontière, pour protéger des invasions, c'est tout. Donc, si je suis dans le pays et je fais un coup de main ou deux contre deux ou trois soldats romains, c'est sûr que je vais gagner. Alors, le grand prêtre en exercice dit, c'est lui le Messie, allez-y, révolte. Et Titus va expliquer que c'est pas vrai du tout et qu'il va écraser Jérusalem. Donc, ils vont se réunir et ils vont se rendre compte qu'ils ont, eux, de la Bible, différentes versions. Pourquoi différentes versions ? Et là, il faut connaître comment s'écrit l'hébreu. L'hébreu, il s'écrit avec des consonnes, et il n'y a que trois voyelles. Enfin, A, U, I, qui sont considérées chez eux comme des consonnes. Et alors, le texte, il va être prononçable parce qu'on met des accents, en arabe c'est aussi le cas, qui vont faire dire A, I, U. Donc on écrit des consonnes, et puis des accents vont faire dire qu'on lira, je ne sais pas, LMS, ça sera aussi bien la Massa, que la Mossa, que la Massi, etc. Ça dépend des accents. Alors, c'est plus, si vous voulez, le texte écrit comme ça est plus un aide-mémoire pour ceux qui connaissent le texte que pour le transmettre proprement dit. Les Juifs, c'était pareil. Alors, ils ont décidé de mettre des points diacritiques pour expliquer les voyelles. Et ils se mettent d'accord vers l'an 400 pour une version de la Bible qu'on appelle la Bible des Massorètes, qui, j'ai l'habitude de vous le dire, a quand même correctement expurgé tout ce qui rappelait les prophéties concernant le Christ. A essayé deux. Je dis bien essayé deux. Mais nous avons un autre texte qui vient aussi des Juifs, qui est écrit en grec, et ça c'est une langue, je dirais, européenne, indo-européenne, la Bible des Septante. Et là, ils disent bien, parthénos, pour dire, une vierge attendra un enfant. Le mot hébreu, lui, il est, je dirais, presque plus précis, il dit Alma. Alma, c'est la jeune épousée avant la nuit de noces. Et Alma, la mère vierge, et Alma, elle est jeune épousée, n'a pas eu de nuit de noces, donc c'est bien Alma qui donne naissance à un enfant. Bon. Donc les Juifs vont faire cela après, ils vont faire une chose. Mais ces Juifs vont essayer de... À un moment donné, il y a un rabbin, semble-t-il, d'après les travaux de Père Théry et d'autres, qui va essayer de passer la connaissance du Dieu unique de Moïse, tel que les Massorètes le transmettent, pour empêcher la propagation du christianisme. Les textes montrent, l'écriture sur les pierres qui restent, parce qu'elle a été bien détruite par les Arabes, montre que c'est les chrétiens qui ont le premier inventé ce qu'on appelle l'alphabet arabe pour transmettre l'évangile. Alors lui, il va reprendre cet alphabet, il va prendre ça, il va former un homme en disant « Tu n'es pas un prophète ». Et lui, Mohammed lui-même, va dire « Je ne suis pas un prophète. Je suis un annonciateur. » Alors, enlevez le mot, dit « Je suis un porte-parole, je suis un haut-parleur, si vous voulez. » Mais il s'est dit lui-même « Non prophète. » Et quand on lui demande des signes, il dit « Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas des signes à vous donner. Mais je vous annonce quelque chose qui est, il existe un seul Dieu. » Alors, sa vie et ses mœurs, une fois que Khadija va mourir, il aura 17 épouses et un nombre incalculable de concubines. Il va même prendre pour femme l'épouse d'un neveu, alors qu'il avait dit que c'était interdit de prendre la femme d'un neveu pour se l'épouser. Mais il a dit, c'est un privilège que Dieu me donne. Enfin, bref, il va faire une vie... Quand il va commencer à prêcher d'abord, bon, les gens l'écoutent, sauf votre respect, en se marrant, quoi. Qui c'est ce bonhomme-là? Qui tu es? Qui t'envoie comme ça pour nous raconter des salades? Ils avaient des idoles, des pierres qui leur servaient d'idoles, bon, pourquoi pas. Et bon, il envoie un peu boulet. Puis progressivement, il insiste, il devient embêtant, il va quitter la Mecque, je ne dis pas en claquant la porte de la tente, parce que ce n'est pas le cas, mais il va quitter la Mecque, il va aller à Médine, et il va vivre du pillage des caravanes. Alors, des fois, ça marche, des fois, ils prennent des culottés, parce que les caravanes avaient quand même une protection armée. Mais cette guérilla sur les lignes de communication du commerce, ça embête les commerçants, quoi. Ça augmente les frais généraux, on dirait maintenant. Alors, il préfère traiter avec lui en disant, bon, ça va, tu gagnes, tu reviens. Et il est relativement modéré, il coupe la tête à peine 5 ou 6 personnes en rentrant, mais il va faire une théocratie, il va avoir dans ses mains le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et ça, Malraux appelle ça le totalitarisme. Malraux l'appelle, mais il a bien raison d'appeler ça un totalitarisme. Il commande à la fois la religion et la politique. Et parce qu'il fait un État, il va faire pratiquement plier toutes les tribus d'Arabie. Et ces tribus d'Arabie, on va le voir, vont être lancées à la conquête du monde parce qu'ils vont disposer de la mobilité et de la pauvreté, quoi. C'est tout. Mais c'est pas tout ça. Et cette histoire de Mohammed qui dit il n'y a pas d'intercesseur entre l'homme et Dieu, c'est pour contrer le Christ. Parce qu'on voit que tout l'enseignement qui est donné par le rabbin a pour but de contrer l'existence de Jésus. Il n'en veut pas. Le Coran, dans le Coran, on lit que par exemple Marie, Myriam, la mère de Aïssa et Jésus, c'est la sœur de Moïse. Bon, enfin, vous voyez, c'est un petit peu décalé dans le temps, quoi, mais ça fait rien. Je vous dis, il y a des choses dedans, on se demande, on comprend que les types disent, bon, enfin, perdons pas notre temps avec ça, quoi. Mais je crois qu'il faut quand même y perdre son temps un peu et regarder. Alors, il devient victorieux à la Mecque, et 3 ans après, il meurt, et il n'a pas prévu sa succession. Et, sympa, il dit aux gens, ne m'enterrez pas tout de suite, attendez 3 jours. Peut-être que je vais ressusciter. Et naturellement, il faisait trop chaud pour qu'on attende 3 jours, on l'enterrait avant. Suivi par Mohammed, le premier qui devait prendre sa place aurait dû être normalement son cousin, qui était son préféré, le fils de l'oncle qu'il avait recueilli, qui avait épousé une de ses filles, et donc il avait tout, je dirais, pour être le régulier, quoi. Seulement, une des épouses qui a été dénoncée comme n'ayant pas été très fidèle, a décidé de se rattraper, elle fait nommer un des beaux-pères comme calife, dit représentant. Et puis il va mourir au bout de 2 ans, avant de faire nommer un autre beau-père, un homme qui était le beau-père des filles de Othman. C'est lui qui va constituer le Coran. Mais voilà ce que dit Jamel Eddin Becher, professeur de littérature arabe, dans le Nouvel Observateur, en février 1996. Je cite, jamais la religion musulmane n'a induit une politique qui ait été respectée. Jamais. Parmi les 4 premiers califes orthodoxes, successeurs légitimes du prophète, disposant à la fois du pouvoir spirituel et de la légitimité historique, tous se sont fait assassiner, et il oublie de dire par le remplaçant. Tous se sont fait assassiner. Ensuite, pas une dynastie n'a pu se maintenir sans connaître, durant son règne, assassinat, complot et s'effondrer dans le sang. Parce que, pour le musulman, Dieu donne la force. Il respecte la force. Si Dieu donne la force, c'est que Dieu t'aime. Donc, le gars qui fait un coup d'État, il a perdu, on lui coupe le cou sans aucun complexe, mais il a gagné, on l'adore sans aucun complexe. C'est lui le patron. Et quand vous lisez l'histoire d'Algérie, à un moment donné, le pouvoir d'Alger, va changer plusieurs fois dans la journée. Chacun tuant l'autre, à commencer par le cuisinier qui tue le... Enfin bref, histoire de fou. C'est vraiment une histoire de fou. C'est la rivalité pour le pouvoir. Alors l'important du pouvoir, c'est aussi que je suis en tant que pouvoir l'interprétateur du Coran. Or, dans le Coran, écrit à des moments différents, il y a des positions, je dirais, différentes. Dans une, il dit qu'il faut respecter les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et les zoroastriens, d'ailleurs les manichéens, et comme d'ailleurs les védiques du Bouddha. Ils ont un livre, donc il faut les respecter, a priori. Mais dans le cas, il dit, combattez-les jusqu'à les humilier et en faire des esclaves. Alors, le pouvoir en place décidera que ce jour-là, bon, il faut les respecter, et demain, il faut les massacrer. C'est une décision politique. C'est politique, je veux dire, d'un homme qui, dans sa tête, décide que. Et c'est pour ça qu'on va voir l'islam passer par des alternances. Et chaque fois qu'il va avoir une position plus coulante, il va perdre sa religion, mais il va développer la civilisation. Mais réciproquement, quand il se ramène à une espèce, on appelle ça l'intégrisme, il refait en arrière dans la civilisation, il détruit le bonhomme. Il devient persécuteur. Alors, je ne reviens pas dessus. Alors, Bernard Lazare, dans son livre « L'antisémitisme à travers les siècles », va écrire « Mahomet fut nourri de l'esprit juif ». Et d'ailleurs, on regarde ces trucs, il y a plein de choses qui sont de rituels juifs. Se laver avant la prière. Et c'est ça la purification, c'est pas la confession des péchés, il n'en veut pas, c'est pas possible. Il y a autre chose qui permet aux musulmans d'établir leur religion, c'est la sunna, leur tradition, qui est formée de hadith. Hadith sont des anecdotes qui racontent des éléments de la vie du prophète. Certaines sont, je dirais, complètement farfelues, enfin, sans aucun intérêt majeur. On dit que dormant une fois, un chat a été mis sur son burnou, et en se levant, pour ne pas réveiller le chat, il avait coupé avec un ciseau pour que le chat puisse dormir tranquille. Bon, je veux bien, pourquoi pas. Mais, d'après Ushang Nahavandi, il y aurait actuellement 1 600 000 hadiths, et d'après ce professeur ancien recteur de l'université de Téhéran, on recense aujourd'hui 1 600 000 hadiths, 40 seulement seraient authentiques. Et il semble bien que dans le temps, comme on veut tout trouver dans le Coran ou dans la vie de Mohamed, quand on ne trouvait pas dans le Coran ni dans la vie de Mohamed une solution, eh bien le juge disait « Mohamed a dit dans tel hadith que c'est comme ça qu'il fallait faire » et puis paf. Et ça s'est multiplié. D'ailleurs, du temps de Mohamed, on lui avait dit, c'est un hadith qui le dit au moins, qu'on lui prêtait des hadiths qu'il n'avait pas fait, des choses qu'il n'avait pas faites. Il dit, ça fait rien, comptez-les quand même. Alors, cette religion va se propager par le fer, le feu et le sang. Et ils ont un avantage. Ils ont des gens qui sont, je dirais, physiquement résistants et forts. Ils sont dans le désert, qui est quasiment un océan, et ils sont les seuls à disposer des moyens de transport dans le désert, c'est le chameau. Le cheval aussi, mais le chameau. Ce qui fait qu'ils peuvent choisir de concentrer leurs forces là où ils veulent, quand ils veulent. Et se replier sans qu'on puisse les poursuivre. Donc ils ont en permanence l'initiative des combats. En face d'eux, il va y avoir des gens qui sont divisés. Il commence à y avoir des hérésies dans les chrétiens, les nestoriens, etc., monophysites. Il y a des hérésies en Église. Le pouvoir du Basileus de Constantinople est en train de descendre. Bref, tout ça fait qu'ils vont bénéficier, donc, d'une part, d'une certaine ardeur, d'une certaine vigueur. Ils vont, sur les pays conquis, les païens sont condamnés à mort, égorgés. Pas de problème. Les autres, il faut les humilier pour leur donner envie de devenir musulmans. Il faut les humilier, il faut leur faire des dimmis. Et ils vont donc partir comme ça, en éliminant des royaumes, des régimes décadents, vers l'Égypte, ils vont passer, et un siècle après, c'est la bataille de Poitiers, Charles Martel. Un siècle après la mort de Mohamed. Bon, grâce à Charles Martel, ils vont passer, grâce au courage des Espagnols, il y a quelques-uns qui résistent le long de la bordure des Pyrénées, et dès l'an 900, on va voir une aide des chevaliers du Midi, par exemple, aider les Aragonais à se libérer ou autres, mais ils se battent, je dirais, on a l'impression d'être assiégés par la marée, quoi. De l'autre côté, ils vont remonter, ils vont attaquer l'Empire byzantin, et quand on va arriver dans l'an 900, il va y avoir une grande bataille. Le dernier grand chef byzantin va s'affronter aux Turcs qui viennent d'arriver, nouveau venu des steppes. Et il va perdre parce qu'il va y avoir une trahison de ses généraux. Trahison de ses généraux qui se disputent le pouvoir, et c'est l'un de ses généraux qui va installer les Turcs à Nicée, à quelques dizaines ou cinquantaines de kilomètres de Constantinople, pour lui demander de l'aider à renverser l'empereur de Byzance. Quand les Arabes ont passé le détroit de Gibraltar, Jebel Tariq, Gibraltar, Tariq c'est le chef, et bien c'est un comte chrétien qui avait demandé à ce musulman de venir l'aider à combattre le roi chrétien de Grenade. Et tout le long, on va voir, c'est par trahison, et en plus, il semble bien que cette religion qui ressemblait beaucoup au judaïsme a dû avoir du côté des juifs installés quelquefois des intelligences, comme on dit, pour ne pas dire plus. Ce qui explique que quand la Reconquista a été faite, les Espagnols en avaient gardé un mauvais souvenir, disons, pour parler poliment. Voilà. Alors on a fait des histoires là-dessus, mais disons, c'était quand il y a haute trahison, en général, c'est la peine de mort, quoi, dans tous les pays, dans tous les langages du monde. Voilà, voilà. Alors, y a-t-il trois religions? Non, je crois pas. C'est évident que c'est pas vrai. Il n'a donné aucun signe. Ce qu'il a fait, c'est le sang, le meurtre, le massacre, l'esclavage. J'appelle pas ça quelque chose venu de la part du Dieu très bon et très miséricordieux. Les fruits de l'islam, il a fait un désert là où il s'est installé. La terre promise où coulait le lait et le miel, c'est devenu un désert. Les juifs, en revenant, ont commencé à reconstituer des choses, mais c'était un désert. C'est pour moi un fléau de Dieu. Dieu permet à l'islam de se propager, comme au communisme, parce que le christianisme s'est affadi. Si le sel ne sale plus, il est bon d'être foulé aux pieds. Dimis. La conversion est donc nécessaire. La conversion, je pense, c'est aimer Dieu en esprit et en vérité, mais c'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur, c'est faire la volonté, et je crois, je suis pas un prophète, je suis un pauvre laïc, je suis pas l'église enseignante, je crois que dans les temps qui courent, le pardon des offenses, le dévouement et la non-bagarre pour l'héritage sont parmi les premiers devoirs des chrétiens. Non, mais je vous assure, c'est ça. On a fait des lois sur l'héritage qui ont pour but de semer la haine entre les familles. Il ne faut plus ça. Il faut que les familles s'entraident. Et la prédication. La prédication, je crois qu'il faut la faire d'abord tout bêtement. Mais il y a une autre, pour les Arabes, pour les musulmans qui sont un peu convaincus, la plupart ne savent rien de leur Coran, on peut leur faire une prédication en direct, c'est autre chose. Pour ceux qui sont un peu au courant, il faut plutôt les amener dans un musée, genre le Louvre, et leur montrer les antiquités égyptiennes, et leur parler de Pharaon, etc., ils connaissent, de Moïse. Et puis leur montrer que, 10 siècles après, il y a eu le Christ. Et que 10 siècles après, le Christ ne peut pas être le fils de la sœur de Moïse, quoi. C'est pas vrai. Mais on va leur dire ça après, une fois qu'ils auront bien compris. Parce que si vous regardez aujourd'hui les musées du Louvre d'ailleurs, vous verrez des Japonais, vous verrez des Anglais, des Scandinaves, vous ne verrez pas un seul Arabe. Parce que tout le savoir est dans le Coran. Et quand ils vont prendre la bibliothèque d'Alexandrie, c'est encore un des fruits de l'islam, il y avait toute la science d'avant les Romains qui était là, d'avant les Arabes. Et on a demandé au sultan, qu'est-ce qu'on fait de tous ces bouquins? Il a dit, ou bien c'est dans le Coran, ça fait double emploi, on peut le brûler, ou bien c'est pas dans le Coran, c'est mauvais, il faut le brûler. Et le phare d'Alexandrie a été alimenté pendant 25 ans, jour et nuit, avec les manuscrits qu'on mettait dedans. Ce qui explique, pour un professeur de philo qui m'avait fait le cours, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, où les moines d'Occident ont retranscrit et ont pieusement récupéré tout ce qu'ils ont pu récupérer comme documents, jusqu'à retrouver une science qui équivale à celle qu'il y avait et qu'on puisse repartir. L'islam n'est pas vraiment civilisateur. Alors l'islam en soi ne fait pas peur. Quand il s'installe, il démolit les gens. Le fatalisme n'a jamais convaincu personne. Seulement, l'islam progresse par les dernières conquêtes qu'il fait. C'est-à-dire la dernière génération qui est devenue musulmane a encore des restes de christianisme et elle est dangereuse. Et je vous signale que le professeur de philosophie qui a quitté le parti communiste, il s'appelait, j'ai oublié son nom, Garaudy, c'est comme par hasard converti à l'islam et c'est lui qui a créé à Cordoue un institut islamique. Quand on regarde Khomeini, c'est manifestement un agent, je dirais, marxiste. Il a pris le pouvoir musulman, il va employer une dialectique musulmane, mais ces hommes s'appellent les gardiens de la révolution, pas les gardiens de l'islam. Il est contre le vilain Satan impérialiste, bon, à la limite, pourquoi pas, mais comme par hasard, il a les mêmes ennemis que les communistes. Et il a les méthodes communistes. Et ça va très bien à l'islam, ce système totalitaire. Alors, en conclusion, je crois qu'il faut, je répète, se convertir nous-mêmes, faire pénitence et prêcher autant qu'on peut, d'abord nos frères chrétiens, mais aussi les musulmans qui, je répète, pour la plupart, ignorent profondément leur foi et qui seraient... Un exemple, pour terminer. Mon frère est en Afrique, il lit l'arabe, couramment. Il a fait des études jusqu'en troisième au Liban. Et un jour, il voit un musulman du Sénégal lui dire « Ah, c'est dommage que Mohamed, que Dieu n'a pas voulu qu'on traduise le Coran en arabe. Sans ça, les gens, en le lisant, seraient convertis. » Et mon frère a pris un Coran et s'est mis à le lire à haute voix. « Tu lis le Coran et tu n'es pas converti ?» Et mon frère lui a répondu « Nous avons d'autres prières au moins aussi belles. » Et lui a dit « Le mot notre Père en arabe. » Là, il est resté bouche bée, il a dit « Oui, c'est une belle prière. » Vous voyez, ce qu'il leur faut, c'est l'existence. Il a quand même une valeur, l'islam, excusez-moi. À des gens qui ne connaissaient rien, il leur a dit « Il y a un Dieu unique et transcendant. » Et ils ont un sens profond de la transcendance de Dieu, ceux qui ont fait des efforts, je dirais, mystiques. Et eux, s'ils voient des chrétiens qui n'ont plus le sens de la transcendance, et sous ce rapport-là, je demande pardon, mais la messe moderne, ça n'a pas fait pour les convertir. Ces gens-là, s'ils voient des chrétiens comme ça, ils viendront à nous, parce que c'est la plus belle religion, grâce à la Trinité, et parce qu'on ne reconnaît pas Mohamed comme prophète. Merci.